Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et bienvenue dans Géopolitique, que vous pouvez également écouter en podcast. Pour cette édition en partenariat avec la revue Question Internationale et son numéro intitulé « Allemagne, changement d'époque », regard sur le pays le plus peuplé de l'Union européenne, avec près de 85 millions d'habitants qui se trouvent depuis sa réunification en 1990 et les élargissements de l'Union européenne 10 ans plus tard au cœur, voire au centre de l'Europe. Devenu le modèle de l'export nation innovante et agile, l'Allemagne occupe le troisième rang mondial des puissances économique derrière les États-Unis et la Chine et devant le Japon, avec un PIB par habitant légèrement plus élevé que la moyenne de l'Union européenne. Mais le retour de la guerre sur le continent européen a provoqué un électrochoc. Le modèle d'une Allemagne nain politique et géant économique installée dans un pacifisme de principe à l'abri du parapluie américain a vacillé. Une mue est en train de s'opérer. L'augmentation du budget de la défense ou la définition d'une stratégie de sécurité nationale témoigne de la volonté de Berlin d'inaugurer une ère nouvelle. Les élections anticipées du 23 février prochain sont un scrutin d'importance pour les choix à venir du pays. Le favori de ce rendez-vous politique est Friedrich Merz, candidat de l'Union chrétienne démocrate, la CDU. Sa principale adversaire est la candidate du parti d'extrême droite, l'AFD, qui fait figure de deuxième formation la plus populaire de ces élections. Des élections qui ont été précédées de plusieurs actes de violence impliquant des étrangers. Le scrutin s'inscrit dans un climat de tension. Regard avec nos invités. Claire de Mesmet, chercheuse associée au centre Marc Bloch à Berlin et professeure à la chaire Alfred Grosser de Sciences Po. Bienvenue.
Merci beaucoup. Bonjour.
Sabine Janssen, professeure au CNAM, Centre National des Arts et Métiers, co-rédactrice en chef de la revue Question Internationale, bienvenue.
Bonjour.
Et Hans Stark, par téléphone, professeur de civilisation allemande contemporaine à Sorbonne Université, conseiller pour les relations franco-allemandes de Alifri, bonjour.
Bonjour.
Le coprésident de l'AFD, le parti allemand d'extrême droite, était présent à la cérémonie d'inauguration de la présidence Trump le 20 janvier dernier à Washington. L'AFD a extrêmement bonne presse ces jours-ci aux États-Unis. On a même entendu Elon Musk souhaiter ouvertement sa victoire aux élections allemandes du 23 février. Sur le terrain, la campagne pour ces élections fédérales a connu des moments de rupture, comme le vote par la CDU-CSU d'une motion sur l'immigration. C'était le 29 janvier dernier. Une loi très répressive en matière d'immigration qui reprend les arguments de l'AFD et qui a mis fin à ce qu'on appelle le cordon sanitaire, jusqu'ici en vigueur en Allemagne, un pare-feu à l'égard de l'extrême droite qui prévalait depuis l'après-guerre. Un tabou a donc été levé. Le passage de cette loi a nécessité une collaboration de fait avec l'AFD. Hans Stark, pourquoi cette initiative si près des élections ?
Bon, d'abord, je pense que le cordon sanitaire existe toujours, hein, cette alliance. Il n'y a pas d'alliance entre la CDU et l'AFD pour le moment, peut-être. Ce que la CDU a fait, c'est le NFP l'a fait aussi avec le Rassemblement national lorsqu'il a voté contre le gouvernement Barnier. Je ferme la parenthèse. Alors, pourquoi est-ce que la CDU a fait initié ce projet de loi? C'est à la suite d'un attentat qui a été commis à Aschaffenburg dont un enfant est mort, de 2 ans. Et c'est peut-être la goutte qui a fait quelque part déborder le vase. Et la CDU, enfin en tout cas M. Merz, émotionnellement très affecté par cet attentat, avait le sentiment qu'il devait agir et qu'on ne pouvait pas se limiter une fois de plus à déposer des germes de fleurs, qu'il fallait envoyer un message fort. Et il a pris le risque que l'AFD vote la même motion, ce que l'AFD a fait. Et il s'est trouvé en effet dans des très mauvais draps. Il a été critiqué au sein de son parti. Pas par l'ensemble, mais il y a eu quand même des critiques, et surtout au niveau de l'opinion publique. Mais encore une fois, ce n'est pas une alliance. Et comme vous l'avez déjà dit dans votre introduction, la CDU ne va pas monter une coalition avec l'AFD.
Alors, tout de même, Claire de Mesmet, ce vote a semé le trouble parmi les électeurs. La question intéressante est de voir si la CDU paye les pots cassés, d'une certaine manière, hein, de cette décision. Et pour ce qui est du cordon sanitaire, il y a eu examiné au Bundestag l'interdiction de l'AFD suite à cette loi. Donc, est-ce qu'elle aura des chances d'aboutir un jour, Claire de Mesmet ?
Alors là, il y a plusieurs questions en une.
Oui.
Je ne sais pas trop par laquelle commencer. J'aimerais revenir sur la question du vote du projet de loi. En fait, il y a eu deux choses. Il y a eu la mise au vote d'une motion non contraignante. Ça, c'est la première chose où l'AFD a soutenu la CDU, la proposition de motion de la CDU. Et ensuite, le projet de loi qui n'a pas réussi à passer la barre. Cette motion non contraignante, il n'y avait aucune obligation pour la CDU de la proposer. Aucune obligation parce qu'elle n'engage rien. Elle ne change rien, de toute façon, à la politique gouvernementale. Donc, c'était uniquement un signal. Ça relevait uniquement, ou ça relève uniquement de la symbolique pour s'afficher sur les questions migratoires. Alors, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Hans Stark l'a dit, on a un contexte, l'attentat, bien sûr. Mais il y a aussi quelque chose de plus large. C'est l'AFD qui est dans le Donc, l'alternative pour l'Allemagne, parti d'extrême droite, avec des éléments néo-nazis, qui est dans le champ politique allemand depuis maintenant plusieurs années, qui est entré au Bundestag en 2017, qui est là, qui s'est installé, qui est aujourd'hui à plus de 20% des voix dans les sondages. Donc, c'est un parti qui compte. C'est un parti qui est avant le Parti
C'est ça,
social-démocrate.
deuxième parti d'Allemagne.
Exactement. Et ça, c'est nouveau. Pour un pays avec l'histoire qu'a l'Allemagne, c'est vraiment nouveau. Et l'AFD, justement, qui est dans l'opposition, qui restera dans l'opposition en principe dans les prochaines années, fait un travail de mise à l'agenda. Sur les questions migratoires, sur les questions de politique d'asile, l'AFD qui a un agenda pro-russe également, et d'ailleurs c'est assez, on est ici dans la schizophrénie, puisqu'en même temps elle est soutenue par Elon Musk, vous l'avez dit, on
Oui.
pourra y revenir. Donc ce sujet migration, politique d'asile, peut-être encore plus important, est central aujourd'hui dans le champ public, dans le champ politique allemand de la campagne. Et dernier mot sur justement la tentative ou le positionnement de Friedrich Merz de la CDU sur cette question. En fait, la CDU et Merz en particulier étaient attendus sur les questions économiques. Il a cette image-là d'expertise économique. Il est mieux positionné, en tout cas dans les perceptions, que d'autres partis politiques. Et il a pris ce risque, justement, d'aller sur un autre terrain. Et là, il s'est mis en danger. Mais en réalité, dans les sondages, ça ne change pas grand-chose.
Toujours à peu près 30%, 31%
Ouais.
des intentions de vote et 20% pour l'AFD, vous l'avez dit. Il est vrai, Sabine Janssen, que l'immigration, ça a été un grand sujet de cette campagne en Allemagne. L'Allemagne qui pourtant en a bien besoin de l'immigration. Alors, on voit la CDU, qui est aux portes du pouvoir à nouveau, entendre instaurer un contrôle permanent aux frontières, restreindre le regroupement familial, revenir sur la réduction du délai de naturalisation de 8 à 5 ans décidé par le gouvernement d'Olaf Scholz. Et le leader conservateur sait qu'il a avec lui la majorité des Allemands.
Oui, alors j'ai envie de dire bienvenue au club, parce que pendant très longtemps, les Allemands ont regardé les Français un peu, je dirais, avec consternation, compte tenu des résultats du Front National devenu Rassemblement National. Et c'est vrai que depuis 2013, l'AFD, et a fortiori 2017, s'impose véritablement sur la scène allemande. Alors, avec notamment une présence très forte dans les nouveaux Länder, hein, l'ancienne Allemagne de l'Est. Et on l'a vu en particulier au mois de septembre avec les élections en Thuringe et en Saxe, où l'AFD a fait plus de 30% des voix. Donc, la question que vous posiez du cordon sanitaire et des alliances, elle va aussi se poser au niveau régional et a fortiori de plus en plus, parce que, il va bien falloir compter avec cette force politique. Alors, sur la question migratoire, on a parlé, il y a eu effectivement un attentat qui a beaucoup frappé les esprits à la fin de l'année, au début de l'année, mais il y en a eu aussi cet été. Et il est clair que cette question migratoire, qui n'était pas première, hein, c'est vrai que c'était plutôt l'économie qui dominait les préoccupations allemandes. On a bien vu dans les derniers sondages que la question de l'immigration était, je crois que dans les derniers sondages, c'était 37% hein, de préoccupations. Ça a fait un bond. Et ça explique que la CDU s'en soit emparée. Elle ne pouvait pas effectivement laisser de côté cette question. Elle ne pouvait pas la laisser à Olaf Scholz. Elle ne pouvait pas la laisser non plus à l'AFD. Donc là, on a je dirais, une fixation sur cette question. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que ça n'a pas vraiment modifié pour le moment, en tout cas dans les sondages, les rapports de force.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Alors, il y a beaucoup de choses avec les questions d'immigration. La première qui me vient, Hans Stark, c'est presque vous demander ce que Monsieur Merz va faire. Ça va être très différent de ce qu'Angela Merkel, elle avait été beaucoup critiquée pour ça, pour avoir accueilli plus d'un million d'étrangers en Allemagne. Donc ce sera intéressant de vous entendre là-dessus. Peut-être on reste pour l'instant sur l'AFD, donc le parti d'extrême droite. L'AFD, dont beaucoup de leaders ou beaucoup de militants, pour faire carrière, sont allés travailler en Europe, enfin en Allemagne de l'Est, ou anciennement de l'Est, avec cette problématique en termes de territoire, une fracture territoriale qui est très forte aujourd'hui encore entre l'Est et l'Ouest en Allemagne. Et puis, autre question par rapport à l'AFD, le soutien d'Elon Musk, l'Américain, pour ce parti d'extrême droite. Votre regard à vous, Hans Stark?
Alors là, deux questions. Alors pour l'Allemagne de l'Est, il faut constater qu'il y avait un fond de xénophobie très virulent, très violent, mais dès la chute du mur de Berlin. Mm. Et nous avons eu des attaques contre des foyers d'asile au tout début des années 1990, et puis aussi des tabous qui ont été brisés en termes d'expression publique dès le début des années 90 également, et puis des quartiers entiers dans des villes, dans des villages qui ont été envahis, enfin, si on peut dire, par des groupuscules d'extrême droite qui font régner leur loi et leur terreur en quelque sorte. Hein. Donc l'Allemagne de l'Est est de ce point de vue-là, non pas globalement parlant, mais parce qu'il y a aussi des quartiers de gauche, notamment à Dresde et à Leipzig, donc l'Allemagne de l'Est n'est pas que d'extrême droite, mais il y a aujourd'hui l'AFD est devenu le premier parti dans les nouveaux Länder et il va probablement obtenir tous les mandats directs donc lors des élections du 23 février, ce qui est en soi déjà un peu inquiétant. En effet, évidemment, lorsque on a vu du côté de l'extrême droite ouest-allemande les possibilités de développement qui s'offraient à elle à l'Est, bah, ils s'y sont allés, ils s'y sont installés, et donc le personnage le plus illustre de cela, c'est Björn Höcke, qui est le chef de l'AFD en Thuringe, qui est l'homme fort de l'AFD et l'un des plus durs aussi, et c'est un enseignant d'Allemagne de l'Ouest qui a fait sa carrière à l'Est. Donc, en quelque sorte, l'Allemagne de l'Est a été peut-être colonisée, si j'ose dire, par des groupuscules d'extrême droite venant de la RFA, qui en ont profité des libertés qu'ils avaient en Allemagne de l'Est. Alors, pour Musk, difficile à dire à quel point le personnage lui-même est déjà d'extrême droite, mais en tout cas, visiblement, il est dans la même mouvance que Steve Bannon. C'est quand même un populisme d'extrême droite qui est aujourd'hui dominant aux États-Unis. Mais je pense surtout ce que Musk a en vue, c'est l'Union européenne qui le dérange avec ses régulations, avec des obstacles qu'il dresse sur la route du développement de ses entreprises. Et donc, il veut faire tomber l'Union européenne. Et l'AFD est un moyen d'y parvenir parce que l'AFD préconise, enfin, demande la sortie de l'Allemagne de la zone euro et si possible même de l'Union européenne. Donc il propose quand même un Dexit et donc c'est vraiment le levier idéal pour Musk pour mettre un terme à l'existence de l'Union européenne, c'est soutenir l'AFD.
Claire de Mesmer, vous souhaitez rajouter quelque chose par rapport à Elon Musk? Plus généralement, ce que vient de dire Hans Stark.
Bah, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Hans Stark sur l'image ou le rôle de cheval de Troie qui est censé jouer l'AFD ou l'Allemagne en général dans la stratégie muskienne ou trumpienne. Ce qui s'est passé avec le salut nazi d'Elon Musk, alors je sais qu'il y a une discussion là-dessus, mais moi ça me paraît relativement clair. Avec encore une fois l'histoire de l'Allemagne, quand on pense voilà la libération, 80 ans de libération des camps Auschwitz. Auschwitz. Donc cette histoire qui est très lourde, qui a marqué l'ensemble du développement de l'Allemagne depuis sa création à la suite de la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est pas anodin. On peut, si on compare la France, l'Allemagne, d'autres pays, on peut parler de normalisation. Non, c'est pas une normalisation parce que l'Allemagne n'a pas une histoire normale. Donc ce qui se passe là, c'est, moi je trouve que c'est vraiment très 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 marquant. Deuxième point sur la question migratoire. L'Allemagne a un problème de main-d'œuvre. Comme d'autres États européens, on est face à une transition démographique. Enfin, on peut aussi parler d'un vieillissement, pour dire les choses clairement. L'Allemagne a besoin de main-d'œuvre immigrée. Et aujourd'hui, dans le discours, il y a cette différenciation qui est aussi relativement classique entre les bons immigrés, l'immigration légale qui va arriver sur le marché du travail, qui va permettre de dynamiser le marché du travail et le système économique, et de l'autre, les migrants dont on ne veut pas, notamment les demandeurs d'asile. Mais ça, c'est la théorie. En réalité, tout ça, tout ce qui se passe aujourd'hui, lorsque notamment la CDU joue avec le feu, avec ces images, eh bien ça nourrit un climat. Ça nourrit un climat anti-migrant qui se retrouve ensuite dans le vote d'extrême droite. Et ça a aussi un impact sur la migration du travail. Les pays occidentaux sont face à une concurrence pour les migrants du travail. Donc, aujourd'hui, déjà, on a dans la discussion, on voit très bien des migrants qui disent « je ne me sens pas bienvenue, je quitte cette région parce que l'AFD est trop présente ou je quitte le pays ». Donc ça aussi, c'est une question qui, à moyen terme, enfin à court et moyen terme, doit aussi se poser. Là non plus, ce n'est pas anodin, la manière dont on parle justement de ce sujet aujourd'hui dans le champ politique allemand. Et toute dernière question, Hans Stark disait « l'Est de l'Allemagne n'est pas uniquement d'extrême droite ». Oui, évidemment, ça c'est important de le dire. Mais j'ajouterais, l'extrême droite n'est pas uniquement à l'Est, elle est aussi à l'Ouest. Elle s'implante dans des communes, dans des régions où l'économie va plutôt bien. Donc, je pense qu'il faut faire attention aussi dans cette présentation des choses. On est face à un phénomène qui est relativement... On est face à une véritable dynamique qui concerne l'Allemagne dans son ensemble.
Alors, dynamique que vous qualifieriez comment? Parce qu'on précise que vous venez de préciser qu'il y a des secteurs économiques qui vont bien. Ce qu'on lit, ce que j'ai lu dans le cadre de la préparation de cette émission, c'est une Allemagne dont la situation économique est compliquée. Le pays connaît sa troisième année consécutive de récession. On l'évoquait à propos des emplois. Il y a 700 000 emplois vacants et pourtant des secteurs industriels qui licencie, je ne vais pas dire à tout va, mais de façon importante. Comment expliquer la situation et quels sont finalement les défis pour l'économie allemande, Sabine Janssen?
On est face à une véritable crise économique. Alors juste, je voudrais rajouter sur la question migratoire le fait que quand même l'Allemagne a été le pays qui a accueilli le plus de migrants en 2015 et même entre 2015 et 2023. Le nombre de personnes accueillies est considérable.
Plus d'un million.
Oui, plus d'un million. Et donc beaucoup plus qu'aucun autre pays. Et donc il y a eu vraiment une hospitalité de la part des Allemands, il faut bien reconnaître qu'en France, ça aurait été impossible. Et il y a quand même beaucoup aussi de contre-manifestations qui montrent que tous les Allemands ne sont pas non plus pro-AFD. Il faut malgré tout y insister. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une crise économique, notamment pour des secteurs majeurs comme celui d'automobile. La Volkswagen a annoncé la fermeture possible de 3 usines. Il y a aussi une crise dans l'industrie chimique. C'est quand même un peu les deux mamelles de l'industrie allemande. Et de ce fait, c'est vrai que ça... Alors, il y a aussi un contexte international, il faut le dire, notamment énergétique, puisque le modèle traditionnel allemand qui reposait sur... le commerce international appuyé sur les exportations vers la Chine, une énergie à bon marché provenant de Russie, c'est en train de se déliter. La Chine, la croissance de la Chine a diminué. L'Allemagne, ça fait deux années de suite qu'elle a 0% de croissance. Donc, on est quand même là face à une économie atone dans un contexte mondiale difficile. Alors, si on ajoute à ça, si je peux dire, on dit d'habitude rien de nouveau à l'Ouest.
On n'ajoute rien, Cécile Janssen. Je vous redonnerai la parole dans la deuxième partie de l'émission. On vous retrouve avec Claire de Mesmer et Anne Stark après le journal. À tout de suite.